Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le Grand Dialogue de ce lundi, nous allons une fois de plus nous intéresser à la situation dans les septentrions maliens. Alors, nous allons particulièrement parler de la ville de Kidal, Kidal qui a accueilli plus d'une délégation ces jours-ci, des délégations qui étaient venues pour de bonnes causes, parmi elles une délégation de techniciens de l'État malien, alors venir échanger pour savoir les préoccupations des localités, des habitants de la ville. Alors, désormais, il y en a qui parlent même de décrispation. Les choses, quand même, semblent aller dans la bonne direction. À quoi assistons véritablement à ces questions et à bien d'autres vont répondre nos invités qui sont le colonel Idriss Ali Amaha de la CMA. Bonsoir. Nous avons Ibrahim Diallo qui est la plateforme. Bonsoir, monsieur Diallo.
Bonsoir, monsieur.
Et nous aurons en ligne Serge Daniel qui est journaliste et écrivain. Le débat vous est présenté par Seydou Fomba. Alors, les prémices d'une décrispation au nord du Mali, c'est donc le thème, le sujet de ce débat, le débat de ce lundi donc. Alors, nous l'avons divisé en trois volets. Le premier volet, c'est sous forme d'interrogation des visites de terrain porteuses d'espoir. Alors avec point d'interrogation, comme je l'ai dit. Première question, comment est-ce que vous appréciez l'atmosphère qui règne aujourd'hui au nord du Mali, notamment à Kidal? Je pose la question en premier lieu au colonel Idriss Ali Amaha de la CMA.
Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. C'est la bonne nouvelle, c'est que pour tous les Maliens, c'est que les Maliens se retrouvent encore une fois. Et j'espère pour la bonne cause et que ça soit aussi plus sérieux que les fois précédentes, parce qu'on en a eu malheureusement plusieurs fois des accords où les gens ont eu toujours des difficultés après. C'est que tout le monde aussi a compris que le gouvernement de la République du Mali a vraiment le bon sens et que la plupart des gens, des politiques, des mouvements ont compris que l'État a vraiment une volonté réelle à trouver une solution pour le problème du Nord. Certes, l'État vient d'envoyer des gens et ce qui est vraiment très important pour nous, c'est surtout urgent sur le plan éducatif, pour l'éducation. Il a envoyé des spécialistes sur le terrain qui sont en train de faire un très bon travail. Et ce qui suit après, c'est que les mouvements se sont retrouvés à Nafis, où aujourd'hui ils sont en train d'élaborer un accord final, Inch'Allah, entre eux. Et je pense que les choses vont dans le bon sens pour tout le monde, Inch'Allah.
Mm-hmm. Ibrahim Diallo de la plateforme.
Oui, merci. Je pense que, comme l'a dit mon frère Ali, l'accord d'Alger a été signé, je pourrais même dire a été imposé. Alors, pour une première fois, je pense que les fils du Nord, ils se sont mis plus que au-dessus même de l'accord, parce qu'ils ont décidé et même de se retrouver sans le protocole habituel, c'est-à-dire sans la médiation, sans les gens qui s'interposent pour discuter entre eux, entre frères, de leurs problèmes et des solutions qu'il faut pour qu'il y ait une bonne vie. C'est-à-dire, c'est plus qu'une décrispation. Vraiment, c'est les enfants d'une même famille qui se retrouvent et ils sont en train d'élaborer les règles au sein de leur famille pour une bonne vie. Et ça surprend peut-être ceux qui ne sont pas très au fait des choses. Mais nous qui vivons ensemble ici à Bamako, nous savons que les signaux sont partis d'abord entre nous ici à Bamako et se sont transportés sur le terrain d'Anafis. Donc, pour ce qui me concerne, je savais déjà que entre frères, c'est-à-dire de la plateforme et de la coordination, et les retrouvailles se sont déjà été réalisées ici à Bamako avant d'aller sur Anafis. Donc ce qui se passe à Anafis, ce n'est qu'une suite logique des événements qui se sont passés ici à Bamako. Maintenant, par rapport à la situation de Kidal, c'est-à-dire de Kidal, les services sociaux de base, l'école, l'eau, la santé, tout ce qui manque. Je pense que, comme l'a dit mon frère Ali, le gouvernement est en train d'aller dans le bon sens. Parce que c'est quand même des enfants maliens. Quel que soit ce qui est advenu, c'est des enfants maliens qui ne méritaient pas de rester comme ça.
On en parlera au cours de ce débat. Okay. Alors, le journaliste écrivain Serge Daniel est en ligne. Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Alors, dites Serge, vous, en tant qu'observateur avisé, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui à Kidal?
Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. À partir du moment où l'accord d'Alger a été signé par tous, à partir du moment où des engagements ont été pris, j'ai toujours dit que ce qu'il fallait et ce qui était fondamental pour que les choses avancent, ce sont des négociations. Il y a des accords d'Alger, c'est vrai, mais il faut des négociations directes entre les différents belligérants. Vous avez entendu tout à l'heure, je regrette de ne pas être sur votre plateau, je n'ai pas pu, vous avez entendu de part et d'autre, ce sont des personnes qui disent et qui s'appellent mon frère, voilà mon frère, ce que mon frère a dit. Oui, on peut ne pas se comprendre à un moment, ça arrive partout, on a des revendications, monsieur l'essentiel, on peut facilement s'entendre. Ce qui se passe à Anéfis aujourd'hui est très important, parce que je l'ai entendu, un intervenant le disait tout à l'heure, nous allons au-delà des accords d'Alger, nous allons plus vite que les accords d'Alger, et ça c'est très important. En ce qui concerne Kidal, c'est un peu comme s'il y avait un cordon ombilical, si vous permettez l'expression, qui était en train à nouveau de fonctionner entre le nord et le sud, même s'il n'y a jamais eu de rupture totale. Les services sociaux de base, vous ne pouvez pas parler d'une région, vous ne pouvez pas parler de population sans parler d'éducation. Vous avez dans la région de Kidal des enfants qui n'ont pas été à l'école depuis, je crois, 2012. Vous avez le groupe électrogène qui alimente la ville qui est en panne, donc Kidal est plongé dans le noir. Vous n'avez pas de centre de santé, donc c'était tout à fait normal que une équipe technique se rende là-bas. Et ce qui est très important, c'est que, et je parle sous le contrôle de vos invités sur le plateau, c'est que l'équipe qui a quitté le sud pour aller au nord a été accueillie par une délégation et logée par une délégation de la coordination des mouvements de la Zawa. Ce n'est pas la mission de l'ONU qui assure la sécurité sur le terrain de cette mission-là. Cela veut dire que ça fonctionne, il faut que chaque parti respecte ses engagements et je reste persuadé qu'on peut aller rapidement de l'avant. C'est un jour nouveau, si vous permettez l'expression, pour le nord du Mali, pourvu que chaque parti respecte ses engagements.
Alors, peut-on parler de retrouvailles plus sincères?
Je le pense très sincèrement quand vous discutez avec les différents acteurs sur le terrain. C'est vrai que bon, on parle de la CEMA d'un côté, on parle de la plateforme de l'autre, mais il y a toujours des liens de cousinage, des liens de parenté entre eux, ça forcément sincère. Vous savez que par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais dans la CEMA, dans la coordination, dans la plateforme par exemple, vous avez quelqu'un par exemple très important dans la plateforme, qui a son frère qui est dans son frère Germain qui est par exemple dans la coordination des mouvements de la Zawa. Donc il y a toujours des passerelles entre les différents groupes et c'est vraiment, je pense qu'il y a une dose de sincérité et que ça sera sincère si chaque parti respecte ses engagements. Parce que quand on prend des engagements, il faut pouvoir les respecter.
Alors, retournons donc dans ce studio pour nous adresser au colonel Idriss Ali Amaha de la CMA. Dites-nous, monsieur Amaha, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui qu'il y a plus de confiance entre les différents les groupes armés, l'État, tous ceux qui sont impliqués dans le processus en fait, de paix?
Écoutez, moi je pense que l'essentiel c'est déjà d'éprouver du côté du gouvernement ce que j'espère va se faire. C'est toujours la mesure de confiance qui peut nous faire avancer en réalité. C'est ce qu'on avait demandé depuis toujours, c'est que il faut déjà faire confiance et essayer d'avancer. Le problème, très souvent, on tape souvent sur le gouvernement. Moi, je suis parmi le mouvement, mais il est aussi bien de réfléchir sur soi-même et savoir que le problème n'est pas toujours du gouvernement. Mm-hmm. Aujourd'hui, le vrai problème des mouvements du Nord ou du Mali, c'est plus l'État malien, c'est plus nous-mêmes. Donc, il faut vraiment qu'on puisse dépasser ça et revenir dans la réalité des choses, que nous, on est de la même famille, on est tous des gens du Nord, et que le problème aujourd'hui doit se régler d'abord chez nous, et qu'on soit en face du gouvernement, dans un groupe uni, pour qu'on puisse accéder à nos droits légitimes aujourd'hui. Voilà.
Alors, Ibrahim Diallo, vous aussi, vous pensez que vous êtes de la plateforme, je le rappelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui plus de confiance entre les différentes parties?
Merci, Monsieur Famba. Permettez-moi d'abord de saluer mon frère Serge Daniel. Et comme vous parlez de frères et de fraternité, Serge, c'est mon frère. Ça fait, on a l'habitude de manger ensemble chez lui, réciproquement l'un c'est l'autre. Donc,
il l'entend, je sais.
Comme je l'ai dit, les Béninois, c'est une excroissance des oreilles de Gao. C'est beaucoup, ils parlent oreilles, mais ils le savent. Donc, c'est des gens aussi que, très sincèrement, nous considérons comme des frères. Donc, pour revenir à notre débat d'aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, quand je dis frère, vraiment, c'est pas de l'hypocrisie. Au moment où on ne voulait pas parler entre nous, on s'évitait. Mais quand on se retrouve, c'est vraiment des frères qui se retrouvent. Et je pense que c'est là, comme nous l'avons dit, nous en avons pris conscience. Nous devons nous aider nous-mêmes, les fils du Nord, parce que les problèmes sont au Nord. Avant que l'État ne vienne, même si l'État c'est notre papa, c'est notre mère à nous tous, c'est d'abord nous qui souffrons entre nous et nous devons aider l'État à nous aider. Donc moi je pense que ce n'est que chose normale, que les choses se passent comme ça, qu'on se retrouve et que nous nous entraînons, c'est plutôt nous qui devrions entraîner l'État à aller vers ce que nous voulons. Et je pense que nous sommes dans cette démarche ensemble.
Alors, c'est Daniel, les deux camarades, pas les camarades, quand même les représentants de la CMA et de la plateforme qui sont ici dans le studio viennent de le dire. Ils disent que désormais, il n'y a plus de confiance entre les différentes parties. Est-ce que c'est votre avis?
Si, il n'y a plus de confiance. Je pense qu'il peut même avoir peut-être des escarmouches, de nouvelles incompréhensions. Mais je suis persuadé que nous sommes sur les rails qui vont mener vers la paix. Vous avez entendu ce que disait tout de suite le représentant de la plateforme. Il dit, c'est à nous, mouvement du Nord, d'amener le gouvernement sur le chemin que nous voulons. Et ça, c'est quand même capital. S'ils s'entendent, parce que le problème est quoi? C'est un problème de développement. Ce sont des gens, ce sont des personnes qui disent, par exemple, nous n'avons pas droit à l'école. Ce sont des personnes qui disent, il faut soigner nos parents. Ça ne veut pas que ça ne veut pas dire que ça ne se faisait pas. Il y a des problèmes de fond. Mais à partir du moment où les deux principaux groupes s'entendent sur le terrain, si vous savez ce qui se passe aujourd'hui à Nefif, si vous voyez la bonne ambiance qui règne sur place, si vous voyez ceux qui se battaient encore il y a deux mois, qui guerroyaient, ceux qui faisaient parler les armes, si vous voyez l'ambiance aujourd'hui sur place, d'après ce que l'on sait, vous savez qu'il y a un réseau de téléphonie mobile qui est rétabli, donc on peut savoir en temps réel ce qui se passe là-bas, il y a lieu, à mon avis, d'être optimiste. Ce que je disais tout à l'heure et que j'aimerais répéter, c'est qu'il faut que chaque parti puisse respecter les engagements qu'il prend.
Alors, retour dans ce studio pour évoquer les deux missions, les missions qui ont été effectuées à Kidal ces jours-ci. Il s'agit d'une mission des techniciens de l'État malien, une mission qui était d'ailleurs avec les responsables de la CMA. Il y a une autre mission, c'est celle conjointe, une mission conjointe de certaines banques de développement et du PNUD à Kidal. Alors, la banque, cette deuxième mission recommande d'ailleurs, entre autres, le retour des services sociaux de base. Est-ce qu'on doit désormais penser que les lignes commencent à bouger par rapport à la gestion même de la situation à Kidal? La question en premier lieu au colonel Idriss Ali Amaa de la CMA.
Écoutez, moi je pense qu'il faut, après les accords, l'essentiel c'est que l'État revienne, tout à fait. Qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Si on veut vraiment qu'on soit dans un pays déjà en demande de développement, ça ne veut pas se faire comme ça par téléphone. Il faut bien que des spécialistes soient sur le terrain et que les gens reviennent déjà. C'est vrai que le vrai problème chez nous, c'est plus aujourd'hui un problème d'école. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de santé. C'est même plus essentiel que ces histoires de banque. On veut bien la banque, mais il faut d'abord miser sur l'éducation. Il faut vraiment miser sur le développement déjà. Il faut que les gens aillent se soigner. Et tout à fait, les banques, pourquoi pas? Mais c'est essentiel pour nous que les gens et que l'administration reviennent au Nord aujourd'hui pour que les choses marchent, quoi.
Alors, Sidio Tamani, dans une trentaine de secondes, il sera 18h30. Nous allons observer notre première pause.
Vous écoutez Sidio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Sidio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Je rappelle à nos auditeurs que le sujet du grand dialogue de ce lundi, c'est bien sûr le Septentrion, où il y a des prémices, les prémices d'une décrispation au nord d'une façon générale. Alors, comme invité, je rappelle que nous avons le colonel Idriss Ali Ama, qui est de la coordination du mouvement Lazawad. Nous avons Ibrahim Diallo, qui est de la plateforme, et au téléphone, c'est Daniel, journaliste, écrivain. Nous étions en train de nous intéresser à deux missions, celle des techniciens de l'État malien en mission. Ils étaient d'ailleurs avec des responsables de la CMA à Kidal. On parlait également de l'autre mission, celle conjointe de certaines banques de développement et du PNUD à Kidal. Alors, dites-nous, Ibrahim Diallo de la plateforme, alors ces missions, c'est quand même quelque chose de palpable, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas?
Ben, c'est plus que palpable, je vais dire que c'est essentiel. Tout ce que nous cherchons là, la guerre, nous l'avons faite, c'est pour améliorer notre bien-être, même si c'est absurde. Mm-hmm. Et nous faisons la paix, c'est pour la vie, pour les mieux vivre. Mm-hmm. Alors, tout ça là ne peut se faire, à mon avis, qu'avec la présence de l'État. Mm-hmm. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas développer sans l'État. Parce que on ne va pas trouver des enfants de Kidal pour être des infirmiers, pour être, je ne sais pas, des techniciens, des plombiers, pour être, je ne sais pas, de la SOMAGEP et tout ça. Et moi, je sais que, par exemple, si on demande à Fomba d'aller à Kidal, il sent qu'il est seul, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a aucune structure de l'État, il n'y a pas de gouverneur, il ne se sentira pas en sécurité. Moi, je peux aller en tant que fils du Nord, je me sens chez moi. Mais beaucoup de fonctionnaires ils ne pourront pas. Donc, pour cela, je pense que pour la raison même pour laquelle nous faisons la guerre, c'est-à-dire le bien-être des populations, il est essentiel que l'administration soit de retour. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour les services sociaux de base, c'est-à-dire rentrer dans les détails, l'école, la santé, l'eau et tout ça, les médicaments, pour avoir tout ça là en quantité et en qualité, il faut le retour de l'administration. Mm-hmm. Et pour revenir à la chose là, moi je trouvais que c'était absurde qu'à un moment donné on veuille faire des élections au nord sans l'administration. J'ai dit, mais c'est quand même ces régions là, ce sont des régions du Mali. Et vous avez dit que vous ne voulez pas la partition du Mali, que les gens ne savent pas, la CMA voulait vous imposer. Maintenant c'est l'administration malienne qui veut une séparation du Mali. En voulant faire des élections ailleurs, vous allez me dire, le ministre de l'administration du territoire qui est nordiste, il sait qu'il y a à 0 mètre de Gawa, à Bourem, il n'y a pas d'administration. À Menaka, il y a administration. Il veut imposer des élections. Est-ce que ces gens-là, ils ne méritent pas quand même d'être des Maliens? Donc, c'est pour vous dire que tout ça là, nous voulons tout ce que tous les Maliens veulent, mm-hmm. mais ça ne peut se faire qu'avec la présence de l'administration. Mm-hmm. Donc, ce n'est qu'une bonne chose qu'il y ait des prémices, qu'il y ait des démarches pour le retour de l'État, pour le bien-être d'abord des populations, pas pour leur faire plaisir.
Mmh. Alors, Daniel, cette mission de technicien de l'État malien à Kidal et l'autre mission, celle conjointe de certaines banques de développement du PNUD de Kidal, en avait vraiment besoin selon vous?
Ah oui, vous savez, on a un premier rapport de cette mission puisqu'on a pu interviewer l'un des membres de la délégation qui a dit exactement ceci. Kidal, la région, le nord, manque de tout. Et essentiellement pour deux raisons. Parce que lorsque vous n'avez pas une administration sur place, lorsque vous n'avez pas un système de santé qui fonctionne, lorsque vous n'avez pas le système éducatif qui fonctionne, évidemment, ce n'est pas possible de développer une région. Donc, Kidal manque de tout, le nord manque de tout. Ça, ce sont les expressions, c'est l'expression, ce sont les propos du chef de la délégation. Et ça, c'est quand même, il y a beaucoup de centres de santé qui n'existent plus, les combats ont détruit à l'intérieur, encore que dans la région de Kidal, il faut dire une chose, c'est que les rebelles en prenant Kidal n'ont pas défiguré la ville, contrairement, vous vous souvenez, à Gao et à Kidal, à Gao, pardon, et à Tombouctou, les bâtiments sont là, etc., mais pas sans infrastructures, sans centre de santé, je crois que je parle sous le contrôle de ceux qui sont sur votre plateau. À Kidal, il doit y avoir deux ou trois centres de santé seulement. Quand vous allez à 10 km à la ronde, on ne peut plus se soigner. Donc, il y a des besoins. Il faut en fourniture d'eau, en électricité. tout est à refaire, et c'est ce que le chef de la mission, vous savez, M. Kolina Amadou, a déclaré à des journalistes.
Alors, la société civile salue, elle aussi, le travail quand même des techniciens de l'État, mais elle souhaite être associée aux démarches en cours. C'est une demande légitime, non? Je pose la question au colonel Idriss Ali Amahad, la coordination des mouvements des Azawad.
Excusez-moi, je n'ai pas saisi.
Alors, je disais que la société civile salue quand même le travail qui vient d'effectuer les techniciens de l'État qui étaient donc en mission à Kidal, mais cette société civile souhaite être associée aux démarches qui sont en cours. Alors, est-ce que cette demande de la société civile, c'est une demande légitime?
Tout à fait. Je pense que c'est vrai que quand on vient dans une région où les gens, quand même, il y a aussi des techniciens maliens qui sont là-bas, qui sont au chômage, c'est tout à fait légitime. Et je pense qu'il est bien quand même de penser à faire participer les gens de la région de Kidal qui sont aussi des techniciens, des plombiers, des gens spécialisés par rapport à l'eau, l'électricité et autres. Et ça encourage aussi les gens de se sentir chez eux et que l'État intervient pour tout le monde. Et c'est très, très important, tout à fait.
Ibrahim Diallo de la plateforme.
Merci. Moi, je pense que l'inclusivité dans toutes les démarches ne peut pas nuire. L'exclusion nuit, mais l'inclusivité ne nuit pas. Donc, que la société civile demande à être consultée ou bien à être, à participer,
associé, oui.
Je trouve ça très normal. Et par contre, quand je dis l'exclusion, nous de la plateforme, nous sommes aussi des enfants de Kidal. Moi, j'ai été l'autre jour en réunion de la plateforme, j'ai vu que le Premier ministre a adressé une lettre à la CMA pour l'informer de l'arrivée, je ne sais pas. En tout cas, ils les ont consultés, mais nous, de la plateforme, tout en étant des enfants de Kidal, en partie, ils ne nous ont pas associés et nous avons protesté. Kidal n'est pas l'affaire privée des personnes, de quelques personnes ou bien de qui que ce soit. Nous sommes tous, nous réclamons de toutes ces régions. Tout le combat que nous amenons, nous l'amenons pour l'ensemble de ces régions, et même peut-être du Mali. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas au Mali de diviser les enfants du Nord. Nous regrettons de ne pas avoir été associés à cette démarche. Et comme vous savez, certains ressortissants de Kidal qui sont dans la plateforme ont dit que c'est le gouvernement qui les exclut en ne les associant pas à cette démarche, comment dirais-je, cette implication de l'administration pour le retour des services sociaux de base. Et c'est pourquoi je dis que la société civile a raison. Les groupes armés, dans leur entièreté, doivent être associés à tout ce qui se fait dans ce lieu, si on veut vraiment une paix sincère. Il ne faut pas louvoyer, il ne faut pas fourvoyer, on ne peut pas faire les choses en fignolant. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter.
Alors, Sir Daniel, la société civile qui souhaite ne pas être oubliée par rapport à ce qui se passe, ce qui est donc en cours dans les septentrions, qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, c'est tout à fait normal, parce que si on exclut la société civile, on va tout droit dans le mur, ça peut constituer un échec. Mais quand on parle de société civile, il faut faire attention. Vous avez, à mon avis, deux types de société civile. Vous avez une société civile très politisée, qu'on retrouve à la périphérie de chaque groupe armé, et vous avez une autre société civile qui, elle, est plutôt silencieuse, on n'entend pas beaucoup, et ça c'est aussi peut-être la faute de nous autres journalistes, on ne leur donne pas souvent la parole, etc. Il faut associer tout le monde. Ce que moi je vois par exemple, c'est qu'actuellement vous avez la CEMA et la plateforme en pleine discussion pacifique à Nefis. Moi je verrais bien une réunion ou des réunions intercommunautaires, je préfère cette expression, en ce qui concerne le sub-transition du Mali à la société civile, des réunions intercommunautaires, que ce soit à Kidal, chez les Iforas, qu'avec les autres tribus, discuter entre eux, les Néfites, surtout ne pas leur imposer un mode de discussion. Ils savent comment ils peuvent parler entre eux, que ce soit à Gao par exemple. Mais je voulais dire tout à l'heure que si la délégation est partie d'abord à Kidal, c'est quand même un symbole. C'est-à-dire que la seule région, la principale région, la capitale régionale où l'armée, où le Mali n'est pas représenté, c'est Kidal. C'est le fief de la rébellion. C'est le berceau de la rébellion. Donc voir surtout une délégation officielle quitter le sud pour aller à Kidal, n'est pas accueilli par l'ONU. Je parle sous le contrôle de vos invités qui sont sur le plateau, qui sont dans vos studios, mais accueilli par les responsables de la CEMA, c'est-à-dire les rebelles. Logé par eux, véhiculé quasiment par eux, c'est quand même, je dirais, pour un début, c'est un symbole assez fort. Mettons, la délégation va revenir à Bamako avec les besoins. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas assez de médicaments, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas d'école, il n'y a pas du tout d'école, etc. Maintenant, entre-temps, il faut que le gouvernement se mobilise, certes avec les partenaires extérieurs, pour mobiliser les fonds, pour mobiliser les biens, pour mobiliser ce qu'il faut, des manuels scolaires, etc. Mais entre-temps, peut-être que là aussi, on peut profiter pour inclure la société civile, pour inclure la notion de réunion intercommunautaire, pour permettre de faciliter ce retour, je dirais, progressif de l'administration dans ces zones, pas seulement à Kidal cette fois-ci, mais au nord, parce que si vous allez à Bamba, vous avez par exemple les mêmes problèmes. Si vous allez à 50 km à la ronde de Gao, vous avez les mêmes problèmes. À Djebok, par exemple, à quelques dizaines de kilomètres de Gao, il n'y a pas longtemps, il y a eu quand même, par exemple, des attaques. Il y a eu des attaques, il y a des voyous qui circulent. Donc c'est tout le nord qui a besoin de cette aide de l'État. Mais Kidal, c'était vraiment un symbole parce que, comme vous le savez, c'est le fief de la rébellion et que depuis les événements que vous connaissez, aucune administration, aucun responsable de l'administration malienne n'avait pu se rendre dans cette localité assez librement. C'est la première délégation qui se rend dans cette région, et cette région, cette capitale de l'ONU, une délégation qui n'est pas accompagnée par l'amunissement, mais accompagnée par les rebelles. Pour moi, c'est un grand jour.
Mmh. Retour dans ce studio pour souligner que pas plus tard qu'hier, on a annoncé le démarrage des activités scolaires à Kidal. C'est sûrement une épine de moins dans le pied, car il s'agit quand même de l'avenir des enfants. Et qu'est-ce que vous en pensez, le colonel Idriss Ali Amaa de la CEMA?
Merci. En fait, je pense que c'est primordial pour nous déjà. L'école, c'est vraiment l'essentiel, l'avenir du pays. Déjà, pourquoi on a ce problème aujourd'hui? Certes, on a un vrai problème de développement au nord. C'est pour ça que la plupart des gens ont pris les armes. Mais encore plus fort, et ce qui nous a encore, d'ailleurs malheureusement, dans toute l'Afrique ou dans le tiers-monde, si on veut dire. Mais aujourd'hui, le vrai problème au Mali, c'est qui nous a envoyé malheureusement les gens qui ne sont pas éduqués, ils font plus la guerre que les gens éduqués à la limite. On peut aussi avoir nos droits autrement. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est l'école et que l'État mise vraiment sincèrement sur l'école et le développement du Nord et il n'y aura plus de problème.
Ibrahim Diallo de la plateforme.
Oui, merci, mais avant d'aborder l'importance du retour de l'école à Kidal et dans le Nord en général, je voudrais dire que, pour rebondir sur la dernière question, par rapport à l'inquiétude de mon frère Serge Daniel, la société civile, nous, les gens pensent que ce sont les groupes armés qui sont en office, mais nous sommes avec toutes nos sociétés civiles. C'est qu'il dit, les gens qui, pas seulement les gens qui tournent à la périphérie pour des raisons politiques et politiciennes, mais c'est des vrais, c'est la société civile de Gao, de Kidal, qu'on a amené en général. Et les pourparlers, tout ce qui se passe, par exemple, il y a des accords, il y a des ententes, des rencontres intercommunautaires entre IMRAD et IFORAS, c'est-à-dire les vrais, vrais acteurs qui se combattent. Et il y a eu un accord de paix et d'entente sur la libre circulation des personnes et des biens, sur la fréquentation libre entre personnes. Et il y a eu, je ne sais pas, la même démarche entre IDNAN et IMRAD, ainsi de suite, entre Arabes et IFORAS. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement les groupes armés qui se retrouvent. Les groupes armés ont pris les armes au nom des populations. Donc, logiquement, ils ne devraient pas aller seuls et laisser les populations au nom desquelles ils prétendent parler. Et pour nous, nous comprenons tellement cela, nous avons tellement bien compris que cela, que chaque fois qu'on va, même quand les gens pensent que nous sommes des groupes armés, seulement, en tout cas au niveau de la plateforme, nous avons toujours une société civile qui est caché au milieu de nos combats, de nos réunions. Maintenant, pour revenir à la situation du retour de l'école, comme l'a dit mon frère Ali, je pense que moi, je suis juriste de formation. Je dois pouvoir défendre mes idées, mes droits, sans prendre une arme. Mais mon frère, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, lui, il pense légitimement que lorsqu'il est frisqué, il n'y a que la force qui lui donne satisfait, qui peut lui donner raison. Et c'est une parabole. Mais c'est pour vous dire l'importance de l'éducation. Quand il y avait, dans les temps, depuis l'ancien régime de Modibo jusqu'à Moussa Traoré, les biennales. Mais l'enfant de Kidal, quand
le
il vient...
artistique et culturel.
Artistique et culturel. Mmh. Quand l'enfant de Kidal vient, c'est une découverte, c'est une joie immense pour lui de découvrir ses frères, des Sikasso, des Kaye, tout ça. Mais ça, c'est un melting pot qu'on avait créé, mmh. qui faisait que les enfants maliens, partout où ils vont, ils savent qu'ils sont mariés, ils se sentent. Mais quand on crée des situations où il y en a qui vont à l'autre, l'autre ne va pas, il va penser que celui qui va à l'école est mieux que lui. Mm-hmm. Nous, même, laissons même le problème de Kidal de côté. Moi, j'ai été victime des grèves de 79-80. Nous savons que tout ce que le gros bonnet à Bamako, ils ont envoyé les enfants à l'extérieur pour aller étudier pendant que nous avons été suspendus. Et j'ai toujours cette douleur-là dans mon corps. Moi, j'ai perdu 2 ans de ma scolarité. Mm-hmm. Donc, on s'est senti moins malien que ceux qui partaient en France, et en France parce que au Sénégal ou je ne sais pas, à Kiba, parce que leurs parents avaient les moyens. C'est exactement la même chose que les enfants de Kidal ressentent lorsqu'ils ne partent pas à l'école et qu'ils sentent qu'à Bamako, à Kaye, certains vont à l'école, nous, on est là. Donc, leur frustration ne peut les pousser qu'à prendre les armes. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est vraiment une bonne chose et que c'est là, c'est facile.
Alors, studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Avant d'aborder donc le second volet de ce débat, nous revenons à cette nouvelle, une nouvelle annoncée hier et qui se rapporte donc au démarrage des activités scolaires à Kidal à partir du 19 octobre. Alors, Serge Daniel, vous êtes en ligne, vous l'avez souligné, peu de centres de santé, pas d'école. Alors, l'école qui va donc rouvrir le 19 octobre, vous vous enregistrez?
Pardon, j'ai entendu.
Ah, je dis que l'école, vous l'avez souligné, vous avez dit qu'il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école. Et on a annoncé quand même une bonne nouvelle hier, c'est que le démarrage des activités scolaires à Kidal est prévu pour le 19 octobre. Je dis que c'est une nouvelle quand même dont vous vous réjouissez, non?
Ah oui, tout le monde ne peut que se réjouir de cela. Mais comme le disaient tout à l'heure les intervenants, il faut insister là-dessus. Vous savez, je le dis généralement, mais les gens ne le croient pas ou ils sont fâchés. Vous savez, quand vous prenez le nord et le sud, Kidal et Bamako, qu'est-ce qui quitte Bamako pour aller à Kidal? Vous avez essentiellement le charbon. Vous avez tout le reste, c'est-à-dire des vivres, les pâtes alimentaires, le gasoil, le fuel, tout ce que vous voulez, ça vient d'Algérie. Il faut vraiment qu'on puisse avoir des traits d'union, on puisse avoir vraiment le sentiment que le Sud, que le Malien du Sud peut se déplacer facilement au Nord et qu'il se sent chez lui, et que celui du Nord se sent celui au Sud. Quand l'école va commencer, ça ne va pas commencer tout de suite avec une vitesse de croisière, c'est évident, parce que, évidemment, ça va commencer dans des quartiers, peut-être de Kidal, ensuite à la périphérie, dans la région, etc. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on ne va pas à l'école à Kidal ou à 10 km à la ronde de Kidal comme on va à Bamako. On va à l'école à Bamako. Ce sont des nomades là-bas, il faut forcément tenir compte de ça. Alors les vivres, il faut pouvoir, par exemple, je vois le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, apporter par exemple un appui en vivres alimentaires, par exemple, en nourriture aux élèves, par exemple, pour les encourager à pouvoir aller à l'école. Il ne faut pas que demain, le 19, ou avant, en tout cas avant la fin du mois, que l'école recommence à Kidal et qu'on nous montre à la télévision une école qui recommence et pour dire, bon voilà, l'école est à nouveau, les écoles ont ouvert leurs portes, voilà, c'est terminé. Non, c'est un long processus et que ça ne s'arrête pas seulement à Kidal, parce que je le répète, à Djebok, vous avez des problèmes scolaires, à Bamba, vous avez des problèmes d'école. Il faut que ça répand, si vous permettez l'expression, ça répand ces métastases dans tout le Nord et que l'école reprenne et qu'il y ait des centres de santé. Mais pour cela, il faut consolider en même temps la paix. C'est-à-dire que si vous faites recommencer, si les cours reprennent demain à Kidal et que vous ne renforcez pas le processus de paix sur le terrain, à mon avis, ça ne va pas fonctionner.
Alors, nos trois invités le reconnaissent, il y a donc une détente, mais qu'est-ce qui doit suivre à présent? Voilà l'aspect de ce débat auquel nous allons nous intéresser à présent. Cette question donc au colonel Idriss Ali Amaha de la CMA. Dites, monsieur Amaha, qu'est-ce qui doit être l'étape prochaine, hein?
Il faut déjà, comme on avait dit, miser sur la sécurité. C'est ce qu'on n'a pas fait malheureusement depuis qu'on a quitté Alger. Mm-hmm. On a préféré pousser sur le plan politique et laisser le sécuritaire derrière. C'est ce qui nous donne la situation qu'on vit aujourd'hui. Mm-hmm. Donc il faut déjà commencer par les patrouilles mixtes. Mm-hmm. Il faut vraiment que la Nations Unies, la MINUSMA mettent le paquet réellement, qu'ils soient sur le terrain et que l'État malien donne aussi l'occasion aux gens, aux mouvements, vraiment aux combattants, qui souffrent, qui veulent vraiment rentrer au pays. Il faut leur donner les moyens déjà de travailler avec leurs frères de FAMA, mm-hmm. et travailler avec les Nations Unies et sécuriser le pays pour avancer sur d'autres thèmes politiques, sécuritaires ou autres. Mm-hmm. C'est important.
Ibrahim Diallo, de la plateforme.
Merci. Effectivement, moi je pense que ce qui est prioritaire, c'est d'abord la sécurité. On parle de développement, on parle de paix, on parle de santé, d'éducation et tout ça là. Mais s'il n'y a pas la sécurité, rien de tout ça là ne peut marcher. Mm-hmm. Et c'est pourquoi je dis que je salue le retour, vivement le retour de l'administration, parce que c'est dans les sièges de l'administration qu'il y aura la sécurité, mm-hmm. qu'il y aura tout ce que vous voulez. Et on a perdu énormément de temps, je pense, avec des mouvements politiques. Et pour ne pas commencer par l'essentiel, c'est-à-dire les patrouilles mixtes, mm-hmm. Les mesures de confiance qui font que, par exemple, quand quelqu'un va voir les FAMA, par exemple, à Nefis ou bien à Kidal, mm-hmm. qui ne se sentent pas agressés, mais qui sentent que c'est une présence normale. Mm-hmm. C'est des gens qui viennent pour nous sécuriser et non pas des gens qui viennent pour nous tuer. Et par exemple, moi, j'aime bien depuis longtemps, avant même que les gens ne nous voient pas ensemble. Je l'ai déjà dit peut-être ici, bien sur d'autres plateaux, ici à Bamako. Les gens pensent que tous ceux qui y a comme bandits qui circulent, c'est des gens de la CMA. Parce que c'est comme ça que beaucoup pensent. Non, c'est faux. C'est des gens qui n'ont rien à manger, qui ont des armes. Et ils se servent de ces armes-là pour chercher à manger. Le banditisme n'est pas propre à Kidal ou bien au Nord. Quand quelqu'un a faim, l'homme, comme je dis prioritairement, c'est un animal comme n'importe quel animal. Et l'animal, le lion, quand il a faim, il cherche à manger. Et c'est ça, l'homme, quand il est acquillé, et surtout celui qui détient une arme, il cherche à manger avec l'arme qu'il a, donc qui est son moyen d'intimidation et de persuasion. Mm-hmm. Donc, pour éviter tout ça là, le retour la sécurité est essentielle. Elle est essentielle. Je pense que c'est un point essentiel, et c'est pourquoi, lors de nos travaux du CSA, la commission, on a beaucoup mis la pression sur la commission sécurité de défense pour qu'il nous sorte rapidement un calendrier, mm-hmm. et des propositions pour que la sécurité puisse revenir rapidement dans cette zone pour que tout le monde se sente à l'aise.
Mm-hmm. Alors, Sir Daniel, l'État malien et les mouvements armés ne peuvent-ils pas envisager des mesures pour faire face à la situation d'insécurité qui prévaut dans certaines localités? Il y a eu quand même des victimes ces jours-ci. Tout le monde qualifie les auteurs de ces actes d'ennemis de la paix. Ne faut-il pas les combattre ensemble au nom de la paix?
Je pense que ce sera le prochain test, en ce qui concerne la réconciliation, en ce qui concerne le processus de paix dans le nord du Mali. Vous savez que tout à l'heure, un intervenant parlait de patrouilles mixtes. Quand vous allez avoir sur le terrain des patrouilles mixtes, un avantage, c'est que les groupes qu'on va appeler, j'espère bientôt, les XES rebelles, qui connaissent le terrain mieux que quiconque, vous allez voir que ces patrouilles mixtes vont permettre aux populations d'être plus en sécurité. Quand on va voir sur le même terrain MINUSMA, plateforme rebelle, armée malienne, dans un même véhicule, ça va rassurer, à mon avis, davantage les populations. Et de mon point de vue, ce sera la prochaine étape, un test pour se rendre compte d'une réalité, c'est que dans le nord du Mali, dans le septentrion du Mali, ceux qui sont en train de faire directement aujourd'hui la paix, ceux qui vont plus loin que les accords d'Alger, pour le moment, du moins pour le moment, ce sont les rebelles
et les groupes de la plateforme.
Alors, vu les derniers développements sur le terrain, comment est-ce que vous appréciez les chances de l'accord de paix et de réconciliation? 18 mois sont quand même prévus pour la mise en œuvre de l'accord. Ce délai est-il à présent tenable? Je pose la question en premier lieu au colonel Idriss Ali Amaha de la CMA.
Bon, 18 mois, réellement, ce n'est pas l'essentiel. Moi, à mon avis, ça n'engage que moi personnellement. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment la volonté déjà politique du côté étatique. Et que certes, 18 mois, mais les gens étaient toujours en combat interne, il y avait des problèmes entre mouvements. Donc aujourd'hui, je pense que l'essentiel, ce n'est pas le timing. L'essentiel, c'est que les gens soient sérieux, comme disait le journaliste tout à l'heure. L'essentiel pour nous, c'est que les gens ils signent et qu'ils soient sérieux et qu'ils respectent leurs engagements, qu'on avance.
Ibrahim Diallo de la plateforme, en quelques mots.
Merci. D'abord, la période intérimaire à laquelle vous faites allusion, ce n'est pas 18 ans. En réalité, c'est du 18 à 24 mois.
Ah, du 18 à 24
mois. 18 à 24 mois dans l'accord. Mais moi, je pense que très sincèrement, ça, c'est du formalisme. C'est-à-dire que c'est un postulat. On pense que c'est ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui nous empêche de ne pas régler nos problèmes en moins d'un an? Si, comme je dis, les enfants du Nord prennent conscience que vraiment tout ce qui s'est fait là, l'aménagement, la médiation, la communauté internationale viennent nous aider. Si nous prenons conscience de cela et que nous voulons nous aider nous-mêmes, qu'est-ce qui va nous empêcher de régler notre problème en un an? C'est-à-dire avant, c'est 18 mois même. Donc c'est pour dire que quand nous travaillons honnêtement et avec conscience, et avec le sérieux, parce que quand on signe quelque chose, il faut se donner les moyens vraiment de respecter ses engagements. Si nous prenons conscience de tout cela, je pense qu'on peut mettre l'accord de côté et, comme je dis, sur le terrain, nous approprions nous-mêmes notre paix et faire la paix avant que les autres ne nous l'imposent. Je pense que c'est possible. Mais avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de bonne volonté, c'est possible.
Alors, le mot de la fin à vous donc, Seth Daniel.
Moi, je suis content. Moi, j'ai participé. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir, de n'avoir pas pu venir sur le plateau. C'est le premier débat, depuis que je suis un observateur, qu'on a sur une radio, sur un média public, sur un média au Mali, où vous avez face à face un rebelle, qui ne soit pas fâché, il a la tête d'un rebelle, vous le taquinez, et l'autre, quelqu'un qui se revendique de la plateforme, qui discutent de l'avenir de leur pays, qui discutent de l'avenir de leur région, et je pense qu'il n'y a pas de raison, qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas rester sur les rails de la paix, encore une fois, pourvu que chaque parti respecte ses engagements. Je parle de l'État, mais je parle aussi des groupes armés.
Alors, merci à vous, Serge Daniel, pour votre disponibilité. Merci également au colonel Idriss Ali Amaha de la CMA en studio ici. Et pareil pour Ibrahim Diallo de la plateforme. Merci donc pour votre disponibilité. Alors, ce débat a été réalisé par Ousmane Diadié Touré, mis en onde par Gagny Kanté à la régie vidéo. Nous on dirait, l'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.